Donc, Ecclésiaste, chapitre 8. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage, et la sévérité de son visage en est transformée. Je te le dis, respecte les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui, et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire, parce que sa parole est puissante. Qui pourra lui dire « Que fais-tu ?» Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une mauvaise situation. Et le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles, mais il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui annoncera comment cela arrivera? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'exerce aucun contrôle sur le jour de sa mort. Il n'existe aucun moyen d'échapper à ce combat. Même la méchanceté est incapable d'en délivrer son maître. Tout cela, je l'ai vu, et j'ai prêté attention à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Ainsi, j'ai vu des méchants être enterrés et entrer dans leur repos, tandis que ceux qui avaient agi avec droiture devaient s'éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville. Cela aussi, c'est de la fumée. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des hommes, des humains se remplit du désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui, et qui ne sera pas pour le méchant. Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Il y a une réalité qui n'est que fumée et qui se produit sur la terre. Il y a des justes qui sont traités d'après la manière d'agir des méchants. Et des méchants qui sont traités d'après la manière d'agir des justes, je dis que cela aussi c'est de la fumée. J'ai donc fait l'éloge de la joie, puisque le seul bonheur de l'homme sous le soleil consiste à manger, à boire et à se réjouir. Voilà ce qui l'accompagne dans sa peine, durant la vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à examiner les activités qui se déroulent sur la terre, en effet, les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni le jour ni la nuit. J'ai vu tout ce que Dieu fait. J'ai vu que l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre qui est accomplie sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il n'y parvient pas. Et même si un sage prétend avoir cette connaissance, il est incapable d'y parvenir. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Jusqu'ici, la lecture du texte biblique. Alors ce matin, on va parler de l'autorité et des autorités. Et je pense que ce n'est pas, de prime abord, un sujet qui nous réjouit parce qu'on a plutôt soif de liberté. Si on pouvait vivre librement sans avoir affaire à quelqu'un au-dessus de nous, on serait sans doute un peu content. Peut-être au travail, votre M+1 est quelqu'un qui est un peu difficile à vivre. Peut-être parfois ça vous donne envie de partir, créer votre entreprise, d'être enfin libre, à votre compte. Peut-être que vous avez connu dans un autre pays un régime qui vous a opprimé, qui était difficile à vivre. Et vous êtes content d'avoir enfin trouvé un peu de paix, un peu de liberté en France. Ou peut-être ici en France, vous avez envie de partir ailleurs, dans un pays où l'État, le fisc, l'école républicaine ou la police semblent moins omniprésents. C'est vrai que notre rapport à l'autorité n'est jamais simple. Et ça, ça fait partie de la vie humaine. On est face à des autorités humaines. Et dans notre passage, l'Ecclésiaste, notre roi berger, c'est ce qu'on a vu ces dernières semaines, il veut nous aider à vivre avec sagesse dans ce monde tel qu'il est, ce monde bien imparfait. On a vu dans la première moitié du livre que oui, cette vie est difficile, que la condition humaine est misérable, difficile. On est mortel. Nos vies ont été écortées à cause de notre péché, à cause du jugement de Dieu. Nous sommes pécheurs, nous sommes impuissants. Et dans la deuxième moitié du livre, on a commencé la semaine dernière, l'Ecclésiaste nous enseigne comment vivre dans ce monde tel qu'il est, ce monde difficile, avec notre condition humaine. Il nous a dit la fois dernière, chapitre 7, que la sagesse nous aide, on a besoin de sagesse. Mais en même temps, cette sagesse est d'une aide limitée. Elle n'est pas une aide absolue, parce que notre accès à la sagesse est limité, partiel. On ne peut pas tout comprendre. En plus, la perfection n'est pas de ce monde. Elle est inatteignable. Et dans ce passage de chapitre 8, on va voir que la sagesse est plus qu'une simple aide. Elle est quelque chose qui nous transforme de l'intérieur. Elle nous change d'une manière qui nous aide à vivre dans ce monde tel qu'il est, dans ce monde imparfait, dans ce monde de pécheurs, un monde que nous n'arrivons pas à changer nous-mêmes. Et dans notre rapport à l'autorité, aux autorités, on a besoin de cette sagesse, on a besoin de cette transformation de cœur. Alors pour commencer, j'aimerais attirer votre attention sur le premier verset de notre passage. Je vous invite à le relire. Qui est comme le sage et sait expliquer les choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de son visage en est transformée. Est-ce que vous voyez qu'il s'agit bel et bien d'une transformation? La sagesse change notre visage. Elle nous adoucit. La colère cède à la paix. Le mécontentement au contentement, l'amertume à la douceur d'esprit, l'inquiétude à la quiétude ou la paix. Et ça se voit sur nos visages, parce que ce qui est dans nos cœurs remonte et puis on le voit sur nos visages. Mais on sait que ce n'est pas simple de vivre comme ça. Et c'est peut-être encore moins simple quand on pense à notre rapport à l'autorité, aux autorités, la vie civile. Les circonstances de nos vies peuvent être très difficiles. On veut bien faire, on veut vivre pour le Seigneur, mais on est aussi entouré de personnes qui ne vivent pas pour le Seigneur. Et ces personnes ont parfois un pouvoir décisionnel, plus de pouvoir que nous, et on doit apprendre à vivre dans ces circonstances-là. On va voir d'abord ce matin comment vivre avec l'autorité humaine, souvent très imparfaite. Comment vivre avec sagesse. Et ensuite, dans un deuxième temps, comment vivre avec sagesse face à l'injustice humaine. Et les deux vont souvent de pair. Et ensuite, dans un troisième temps, on va voir quelques clés pour avoir cette sagesse transformatrice, pour être animé de cette sagesse transformatrice. On va commencer avec la sagesse face à l'autorité humaine. Et dans les premiers versets de notre passage, l'Ecclésiaste, qui était un roi, nous invite à un cours. On est là sur les bancs d'école, l'École nationale d'administration d'Israël, l'ENA d'Israël de l'époque. Parce que ce cours, je pense qu'il aurait donné à des hauts fonctionnaires, peut-être à des jeunes hommes désireux de servir le roi, servir l'administration. Et l'équivalent aujourd'hui serait bien sûr l'ENA, les grandes écoles, pour servir la République. En tout cas, c'est le roi qui parle. Donc il parle en connaissance de cause. Il sait ce que c'est d'avoir une fonction publique, d'avoir des serviteurs. Et qu'est-ce qu'il dit à ces jeunes hommes, ces courtisans, ces fonctionnaires, ces mandarins? Verset 2. « Je te le dis, respecte les ordres du roi. Et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne sois pas pressé de t'éloigner de lui et ne persévère pas dans une mauvaise situation. En effet, le roi peut faire tout ce qu'il désire parce que sa parole est puissante. » Donc, dans l'ensemble, c'est vraiment un appel à la soumission. On va voir dans un sens qu'il s'agit quand même d'une soumission intelligente, réfléchie. Mais il s'agit quand même de la soumission. Il s'agit du roi. Il peut faire ce qu'il veut. Sa parole est puissante. Sa parole fait loi. Et l'Ecclésiaste enseigne ses jeunes apprentis, ses jeunes fonctionnaires, à ne pas se rebeller contre le roi, à ne pas comploter contre le pouvoir. C'est dangereux. C'est peu sage. Dans le Nouveau Testament, nous apprenons que les autorités ont été mises en place par Dieu lui-même. Dieu leur a donné un rôle limité, pour notre bien. Elles ont à punir le mal et les malfaiteurs. Et ici, nous voyons que si nous devons nous soumettre à l'autorité civile, c'est d'abord à cause du serment fait à Dieu. Alors, c'est possible que l'Ecclésiaste pense à un serment de loyauté fait au roi devant Dieu. Ses fonctionnaires devaient peut-être prêter allégeance au roi avec la Bible ou quelque chose comme ça, avec un serment devant Dieu. Et c'est vrai pour nous aussi. Ce qui nous lie, ce qui lie nos consciences, c'est Dieu d'abord. C'est Dieu lui-même. Notre respect pour l'autorité civile ne dépend pas de notre respect personnel pour les individus qui nous gouvernent, ou même la droiture des institutions. Mais c'est un respect de la fonction que Dieu lui-même a donnée. Alors dans notre situation, l'équivalent du roi, c'est la République avec ses institutions. La présidence, le Parlement, le Sénat, la Constitution, la loi, le code pénal, le système judiciaire, la police. Et la sagesse veut que nous respections ces choses. Oui, ces choses sont loin d'être parfaites. Nous avons vu tout au long du livre qu'on vit dans un monde bien imparfait, soumis au jugement de Dieu. Nous sommes tous faibles, tous pécheurs, limités, voués à la mort. Et nos institutions politiques sont également imprégnées de cette condition humaine. Elles sont loin d'être parfaites. Mais l'attitude qui nous convient, de manière générale, c'est cette soumission volontaire. C'est sage, mais surtout parce que c'est à cause de notre conscience devant Dieu. C'est Dieu qui a mis en place nos autorités. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais quand est-ce qu'il faut quand même se révolter contre un roi? Vous êtes peut-être pour la plupart des Français, et c'est une question peut-être que vous vous posez. Sachez aussi que les Anglais se sont posé cette question. Ils ont décapité un de leurs rois, même avant la Révolution française, Charles Ier. En plus, c'est un protestant évangélique qui l'a suivi, Cromwell. La suite du passage nous dit, notre passage ici, fin du verset 5. Le cœur du sage connaît le moment opportun et les règles à suivre. Oui, pour toute activité, il y a un moment opportun et des règles. Donc, en toutes circonstances, c'est une question d'avoir un cœur sage. Un cœur sage saura quoi faire. Qu'est-ce qui est opportun? Qu'est-ce qui est bien? Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un tel cœur? Un cœur de sagesse? Alors, le début du verset 5 nous dit « Celui qui respecte le commandement ne se retrouvera pas dans une situation, dans une mauvaise situation. » Et ces deux choses vont de pair. Alors, de quel commandement est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il s'agit du commandement du roi ou celui de Dieu? Je ne suis pas absolument sûr, mais je penche en faveur de l'idée du commandement de Dieu. C'est-à-dire ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu, ce qui est conforme à sa loi, ce qu'il a révélé dans sa parole, dans la Bible. Et en quelque sorte, la justice de Dieu, ce qui plaît à Dieu, c'est notre boussole. C'est notre roi ultime. Et le sage cherchera à plaire à Dieu en chaque situation, dans chaque situation, plutôt que de se laisser séduire par l'ambition personnelle, ou par le désir de vengeance, ou par la haine, le mépris, l'orgueil. Celui qui est imprégné de sa loi, de sa volonté, de sa parole, il saura ce qui est juste, ce qu'il faut faire, même dans les situations parfois très difficiles, compliquées. Alors j'ai dit qu'il saura quoi faire, mais en réalité son savoir est limité et partiel. C'est ce qu'on va voir dans la suite du passage, fin du verset 6. Mais, voilà, contrebalance. Mais il y a un malheur qui accable l'homme. Il ne sait pas ce qui arrivera. Et qui lui annoncera comment cela arrivera? En fait, c'est parce qu'on n'est pas omniscient. On ne sait pas toutes choses. On ne peut pas tout prévoir. Et on le sait, les rois sont parfois très imprévisibles. La suite du passage nous parle de la mort et le fait que nous ne maîtrisons pas le jour de notre mort. Peut-être, je ne sais pas, peut-être l'Ecclésiaste pense à ces rois tyrans, imprévisibles. Nous vivons un temps, comme le verset 9 nous explique, où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. L'appât du gain, la recherche obsessionnelle d'une vaine gloire, la jalousie sont des motivations très fortes. Et parfois, ces motivations priment sur ce qui est juste, sur ce qui est rationnel. Et donc, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. On va faire notre mieux. On va chercher la justice. Mais on ne maîtrise pas l'avenir. Ce n'est pas une garantie de succès. En ce moment, dans l'élection présidentielle, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer. Je ne sais pas ce que les fonctionnaires autour de l'Élysée ou les candidats divers ou les gens de la presse, bon, on sait qu'ils s'agitent, mais il y a plein de choses qui se passent et ils ne peuvent pas prévoir ce qui va se passer. C'est difficile d'agir avec sagesse dans ce genre de circonstances. Alors, on n'est pas nombreux à être des fonctionnaires haut placés dans l'administration, mais nous avons tous affaire à cette autorité civile, ne serait-ce que la police, le fisc. Est-ce que nous avons ce respect dont parle l'Ecclésiaste, avec en même temps cette boussole de la justice, la parole de Dieu, ce qui est juste? Est-ce que c'est ça ce qui guide nos choix quand nous avons affaire à l'autorité civile? Et je pense que cette sagesse peut nous aider dans d'autres situations aussi. Au travail, nous sommes souvent dans une hiérarchie avec une autorité au-dessus de nous. On n'est pas toujours d'accord avec ce qui se fait. Une attitude de soumission intelligente avec la boussole de la justice de Dieu peut nous aider à faire des choix sages, même si ça ne garantit pas le succès. C'est un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Oh, bien sûr, l'autorité d'un employeur est bien plus petite que celle de l'État. Elle est simplement une autorité contractuelle, on est libre de partir. Et parfois, il vaut mieux faire ça quand on le peut, quitte à conserver, à préserver notre conscience devant Dieu. Dans un cadre très différent, celui du mariage, Dieu a donné au mari d'être le chef bienveillant de la famille de sa femme. On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais en tout cas, c'est une grande responsabilité et le mari doit imiter Christ. Mais dans un monde de pécheurs, c'est jamais simple de faire ça. Ça peut être très très difficile. Difficile pour une femme de faire si son mari ne le fait pas en toute humilité, devant Dieu, dans la crainte de Dieu, en la tenant en grande estime. Difficile aussi pour un mari de faire ça si sa femme ne le respecte pas ou si elle essaie de renverser les rôles. En tout cas, l'Ecclésiaste nous parle d'une attitude de respect, de soumission. Par égard à Dieu lui-même, nos consciences sont liées à Dieu d'abord. Avec, bien sûr, cette boussole de la justice, on cherche ce qui plaît à Dieu d'abord. Qu'est-ce qui est juste ? Dans un monde déchu, parfois, il y a des situations dramatiques dans le couple. Et il faut faire intervenir la justice civile. Parce que Dieu nous a donné la justice civile pour protéger les vulnérables, souvent des femmes. Et c'est ça ce qui est juste et bon dans ces cas-là. En tout cas, il nous faut de la sagesse. Même si cette sagesse ne nous préserve pas de tout, nous ne pouvons pas maîtriser l'avenir. On ne peut pas maîtriser les réactions des gens. Même en Église, les conseils de l'Ecclésiaste sont pertinents. Hébreux 13 nous dit que Dieu a donné une autorité à respecter, celle de la direction des anciens. Et eux-mêmes sont soumis de manière ultime pour ce qui est de la discipline d'Église, s'ils devaient déraper, s'ils devaient pécher de manière grave ou s'écarter de la bonne doctrine. Ils sont soumis aussi à la discipline de tous les membres de l'Église, comme tous les membres sont soumis à une discipline réciproque. Ce n'est pas une notion qui passe comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, on est assez individualiste et on pense parfois à l'Église comme juste un club de bénévoles où il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'autorité. Il nous faut cette sagesse qui cherche le respect, la soumission intelligente, avec cette boussole de la justice. Qu'est-ce qui plaît à Dieu ? Qu'est-ce que la parole nous dit ? Et le cœur du sage soumis à la parole de Dieu ne cherchera pas son intérêt personnel, ne sera pas animé par l'ambition personnelle, mais cherchera à glorifier Dieu et à servir ses frères et sœurs. Pas toujours simple, même en Église, on est des pécheurs, on vit dans un monde déchu, on a une sagesse limitée. Même quand on fait le bien, quand on cherche à agir avec sagesse, cette action ne sera pas toujours comprise par les autres, mais on doit faire notre mieux. Avec cette attitude de respect, avec nos consciences liées par la parole de Dieu. À partir du verset 10, l'Ecclésiaste commence à évoquer les injustices que nous constatons dans ce triste monde. Donc nous sommes à notre deuxième partie, la sagesse face à l'injustice humaine. Et au verset 10, nous apprenons qu'il y a des méchants qui sont enterrés avec honneur, avec des foules, avec des éloges, tandis que ceux qui ont agi avec droiture sont oubliés, mis de côté. Je lisais un article dans la presse cette semaine qui évoquait le décès d'un homme en Irlande du Nord qui avait été très haut placé dans un groupuscule terroriste qui s'appelait l'IRA. Et cet homme, très haut placé, numéro 2 je pense, pendant les moments les plus difficiles, il était sans doute responsable de beaucoup de morts. Beaucoup de meurtres. Il y a 20 ans, le processus de paix a été entamé. Et cet homme est entré au gouvernement. Il était le numéro 2 du gouvernement pendant pas mal d'années. À ses obsèques, il y avait beaucoup de dignitaires, y compris un ancien président des États-Unis, Bill Clinton. Et c'est vrai que son parcours a été particulier. Un terroriste qui a fini par poursuivre la paix. Mais cet article évoquait les veuves et leurs enfants, qui avaient été privés de leur mari et de leur père. Et je ne sais pas ce que ces personnes pensaient de toute la pompe autour de ces obsèques. Sans doute c'était très très difficile de voir tout ça. On a tendance à pardonner les grandes erreurs des soi-disant grands hommes qui ont marqué notre quotidien. Et on oublie les autres. La justice humaine est souvent très lente aussi, c'est ce qu'on voit au verset 11. Parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire 100 fois le mal et continuer à vivre. Et cette lenteur peut donner un sentiment d'impunité. Parfois, quand la justice tente de faire quelque chose, c'est déjà trop tard. le mal est fait. Ça peut être vrai pour les élites. Ils ont des avocats. Ils peuvent repousser des enquêtes aux calendes grecques. Comme ça peut être vrai aussi pour les petits délinquants du quartier qui causent bien des nuisances. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas toujours très inquiétés par la police. C'est énervant. Pire, ça peut être dangereux. La vie d'autrui peut être peut-être mise en péril, voire ôtée. La colère peut monter. Le désir de faire justice soi-même peut être là. Ou on peut être tenté de nous dire, bon, si c'est comme ça, autant faire de même. Ce n'est pas la peine d'être juste. Mais l'Ecclésiaste nous appelle encore une fois à la sagesse. Une sagesse centrée sur Dieu qui renvoie à une justice que seul Dieu peut nous donner. Versets 12 et 13. Mais je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui. Qui ne sera pas pour le méchant? Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre, parce qu'il n'éprouve pas de crainte devant Dieu. Il y a en effet un bonheur qui est réservé à celui qui craint Dieu, qui respecte profondément Dieu. Celui-là remet la justice à Dieu qui jugera tout homme en son temps. Et parfois, Dieu fait justice, Dieu permet à la justice d'être faite sur terre. Assez souvent d'ailleurs, on récolte, de manière générale, on récolte ce qu'on sème. Et très souvent, les méchants tombent dans leur propre filet. Le manque d'intelligence les rattrape. Les prisons sont quand même pleines à craquer. Même celui qui ne se fait pas attraper vit sachant qu'il pourra un jour être attrapé. Il suffit d'une dénonciation ou d'un geste mal placé. Il vit un peu avec la peur au ventre. Mais celui qui s'humilie devant Dieu, qui lui fait confiance, qui remet la justice à Dieu, choisit la meilleure part. Une part qui lui donne la paix, le bonheur. Un bonheur en Dieu. Une bonne conscience devant Dieu. Il aura le dernier mot. Dieu aura le dernier mot. Alors pour terminer ce matin, j'aimerais revenir un peu à la thèse du départ. La sagesse change la vie de l'intérieur. Elle change nos visages. Elle nous adoucit. Et dans un sens, on a déjà commencé à voir ça. Cette crainte de Dieu face à l'injustice nous donne un bonheur. Un bonheur qui vient de Dieu. On a la meilleure part. On a Dieu lui-même. Et au verset 15, l'Ecclésiaste évoque la joie aussi. Après le bonheur, la joie. Et au verset 1 du chapitre 9, il évoque la confiance en notre Dieu souverain. Parce que l'Ecclésiaste veut que nos cœurs, et ainsi nos visages, reflètent ce bonheur. Ce bonheur dans la crainte de Dieu. Et cette joie, cette reconnaissance. Et aussi cette confiance. Mais chacune de ces choses, le bonheur, la joie, la confiance, chacune de ces choses ne peut être vécue ou expérimentée sans une rencontre réelle avec celui qui nous les donne, à savoir Dieu lui-même, notre Créateur, notre Souverain, bienveillant. La joie, comme on a déjà vu plusieurs fois dans l'Ecclésiaste, vient d'une appréciation des plaisirs tout simples que Dieu nous donne dans la vie. C'est quand nous comprenons que ces choses viennent de lui, comme des cadeaux de sa part, qu'on peut y prendre part avec joie, avec reconnaissance, manger, boire, se réjouir. Il pense peut-être à des choses comme nos familles, nos amis, l'amitié, la santé. La beauté de la création. C'est Dieu qui nous donne de telles choses. Et ces choses sont à recevoir avec reconnaissance. Ça nous change, ça nous donne de la joie. L'Ecclésiaste, le sage, nous dit que nous devons vivre parfois avec des situations difficiles, avec des autorités difficiles aussi, avec l'injustice qui nous écœure. Mais on peut toujours recevoir ces cadeaux avec reconnaissance, sachant qu'ils viennent de lui. Qui vient de sa main. On peut y goûter avec reconnaissance. Et ça change notre cœur. Ça nous donne de la joie. Une joie toute simple. La vie n'est pas simple. Elle est souvent difficile. Et l'Ecclésiaste termine le chapitre 8 en évoquant, comme nous avons vu la semaine dernière, les limites de cette sagesse. Et les limites de notre capacité à acquérir la sagesse. On n'arrive pas à tout comprendre. L'Ecclésiaste, on le voit ici, a examiné toutes les activités des hommes, tout ce qui se fait sur la terre. Et il conclut, verset 17, que l'homme ne peut pas comprendre ce que Dieu, dans sa souveraineté, est en train de faire. Le Dieu de l'Ecclésiaste est un grand Dieu, un Dieu souverain en toutes choses. Il voit les activités des hommes, mais il discerne la souveraineté de Dieu, la main de Dieu dans toutes ces choses. Mais en même temps, il dit que ça me dépasse. J'arrive pas à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est pourtant pleinement souverain, pourquoi est-ce qu'il permet ceci ou cela? Pourquoi une maladie, une telle maladie pour une telle personne? Pourquoi telle tragédie? Pourquoi tel régime n'est pas encore au bout du souffle? Pourquoi la persécution dans ce pays, mais pas dans un autre pays? Alors Dieu n'est pas l'auteur du mal. Mais c'est bien lui qui est souverain. On a vu au chapitre 7 que c'est lui qui nous donne des bons jours comme les mauvais jours. Il est vraiment souverain. Rien de ce qui nous arrive ne nous arrive pas sans qu'il ait permis, sans ses décrets éternels. C'est lui qui est vraiment le maître. Et c'est pour ça que l'Ecclésiaste dit « j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas peut-être à accepter ça ». En même temps, et c'est la clé de cette sagesse transformatrice, l'Ecclésiaste nous invite à la confiance. Verset 1 du chapitre 9. « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. » L'Ecclésiaste nous dit que Dieu sait ce qu'il fait. Et ceux qui lui font confiance, ces justes, sont dans sa main souveraine. Et donc il nous invite à une foi, une crainte reconnaissante, une confiance qui connaît son Dieu. Oui, cette vie est souvent difficile, parfois très injuste. Mais notre Créateur est bienveillant. Il règne. Il maîtrise tout et nous sommes dans ses mains. Jésus-Christ lui-même, pourtant le roi de l'univers, Dieu le Fils, s'est soumis de manière volontaire à cette autorité humaine, si injuste. Devant ses accusateurs, Jésus s'est tu par moments. Il a fait la volonté de son Père. Ce qui est juste et bon, il avait cette boussole. Il est allé jusqu'à la croix pour aimer son prochain comme lui-même, parce que c'est là qu'il a porté, enduré, le châtiment qui aurait dû être le nôtre. Il a purgé la peine que son peuple méritait. Jésus s'est humilié, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Et Jésus a fait confiance à son Père. Il savait que sa vie était dans la main de son Père. Que le dessein de son Père devait s'accomplir. Il a vécu cette crainte confiante et joyeuse, sachant qu'en temps voulu, 3 jours après, le bonheur éclaterait. Et en effet, Dieu lui a rendu justice. Dieu l'a ressuscité. Dieu l'a déclaré innocent. Il a approuvé. Il lui a donné son approbation. Il a dit qu'il était digne de louange. Il lui a donné la plus haute place, le nom au-dessus de tout nom. Il est Seigneur. Et nous mettons notre confiance en lui, en Jésus. On ne comprend pas toujours pourquoi Dieu nous fait passer par certaines voies, certaines injustices, certaines humiliations, certaines souffrances. Mais nous savons qu'il sait ce qu'il fait. Nous savons du reste, nous dit l'Épître aux Romains, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il sait ce qu'il fait. On sait que Dieu est en train de réunir toutes choses sous les pieds de son Fils Jésus-Christ. On sait que de manière ultime, Jésus a déjà vaincu. Et donc notre confiance peut être joyeuse. Notre crainte de Dieu peut être reconnaissante. Nous savons que le Père nous a donné au Fils. Que le Fils et le Père nous ont dans leurs mains. Personne ne peut nous arracher de la main de Jésus. Oui, cette vie dans cette création soumise à la frustration est bien difficile. Et elle sera difficile jusqu'à la fin, c'est sûr. Et pour une raison ou pour une autre, Dieu nous fera passer par moments par des voies bien difficiles. Mais notre bonheur, notre joie, notre part, c'est de le connaître. Et nous pouvons le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Les plaisirs tout simples, comme le plaisir de le connaître de l'avoir comme notre Père, un Père qui nous aime, qui nous a pardonné, qui nous a dans ses mains. Et c'est cette sagesse-là qui est transformatrice. Elle change notre visage. Parce que là où il y avait de la sévérité, comme on voit dans le verset 1, il y a maintenant de la paix en Christ. Il y a de la joie en Christ. Il y a la lumière de la bienveillance d'un Père bienveillant. Là où il y avait mécontentement, méfiance, il y a maintenant un contentement en Christ, une confiance en notre bon Père céleste. Là où il y avait l'amertume, il y a maintenant la reconnaissance pour tous ses dons. Et la peur et l'inquiétude peuvent céder à la confiance et à la paix. Oui, c'est pas toujours facile de vivre ces choses, n'est-ce pas? Nos visages ne brillent pas toujours. Mais quand on ressent le retour de notre ancien visage, si je puis dire, le visage où il y a de la sévérité, la crainte, la peur, le mécontentement, l'amertume, qu'est-ce qu'il faut faire? On a besoin de fixer nos yeux sur le visage de Jésus. Là, sur son visage, on rencontre notre bon Père céleste. Jésus est le reflet parfait de son Père. Et on se rappelle qu'en Jésus, nous avons un Père souverain qui nous aime, qui nous a mis dans la main de son Fils. Et oui, il nous fait passer par bien des épreuves parfois. On vit dans un monde difficile face aux autorités qui sont parfois contre la parole de Dieu. On vit avec l'injustice. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Et il veut notre bien. Cette sagesse-là, cette connaissance de Dieu, telle qu'il est vraiment, nous transforme, nous donne cette paix, cette joie, cette reconnaissance dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde tel qu'il est. Je vous invite à la prière. On va demander à Dieu de nous aider à lui faire confiance. Prions. Notre bon Père Céleste, tu vois que c'est bien difficile de vivre dans ce monde. Parfois, les autorités civiles sont bienveillantes. On te remercie pour la bienveillance relative de nos autorités ici en France. Pense à tes frères et sœurs ailleurs dans le monde qui vivent des situations bien plus difficiles. Père, on voit des injustices de tout genre. Des petites injustices de la vie quotidienne liées au péché, au racisme, l'avarice, comme les grandes injustices aussi. Notre Père, nous voulons te demander de nous aider, aide-nous en nous donnant ta sagesse, une juste connaissance de qui tu es, pour que nos cœurs puissent te faire confiance. Faire confiance au Père que tu es. Un Père souverain, un Père bienveillant, un Père créateur qui nous donne de bonnes choses. Père, c'est vrai, on ne sait pas toujours pourquoi tu nous laisses passer par des épreuves. Parfois des épreuves qui semblent accablantes. Pourquoi certaines personnes semblent beaucoup plus éprouvées que d'autres. Père, nous ne comprenons pas toujours tes voies, mais nous voulons te faire confiance. Tu sais ce que tu fais. Tu es souverain, Tu as un dessein parfait. On l'a vu en Jésus-Christ. Et Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché. La victoire est déjà là, elle viendra. Père, aide-nous à te faire confiance. Donne-nous de fixer nos yeux sur Jésus, qui est l'exemple suprême de comment vivre avec cette sagesse, avec cette confiance en toi. Père, donne-nous aussi en tant qu'Église d'être un vrai soutien les uns pour les autres dans ces moments difficiles. Donne-nous ensemble en tant qu'Église d'avoir un vrai souci fraternel pour ceux qui passent par des moments difficiles. Donne-nous de l'humilité, donne-nous du respect, donne-nous de vivre cette soumission volontaire, réciproque. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.